Voici deux chaises. Sur chacune, un fantôme. Qui peut se cacher sous ces draps? Selon la plupart des gens, on aurait à gauche un enfant de 5 à 10 ans, à droite, un adolescent ou un adulte. La réalité est juste l'inverse. L'adulte sur sa chaise semble en miniature, mais sa petitesse ne tend-elle pas à suggérer un éloignement qui, d'ailleurs, paraît incompréhensible? On n'attrape pas deux fois son public, mais certaines illusions sont tenaces malgré les démentis de l'expérience. Qu'y a-t-il, selon vous, dans ce sac d'apparence bien anodine? Ce mouvement du sac a fait penser à beaucoup de personnes qu'il pourrait s'agir d'un singe, à d'autres d'un mécanisme à ressort. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça ne réagit guère. Ah si? Ce retard de la réaction ne supprime pas le problème. Le sac est sur la chaise. L'homme qu'il contient et donc aussi sur la chaise. Mais bien des gens, maintenant, tendent à le voir plus loin, à cause de sa taille présumée et de l'imprécision des détails. Cette promenade, qui semble à certains aérienne, accentue chez la plupart l'impression d'éloignement. La nature de la cloison devient de plus en plus suspecte. Le déplacement de l'autre comparse peut aider à en deviner la véritable structure, mais l'énigme de la chaise demeure. La chaise pose toujours le même problème. Les magazines que présentent ces enfants sont-ils, oui ou non, de format différent? Suivons le jeune garçon dans son déplacement. Il semble s'en aller bien au-delà de la cloison, malgré ce que nous savons maintenant de celle-ci. En fait, il vient seulement d'en atteindre le plan vertical. Dirait-on qu'il est maintenant à même distance de nous que la fillette? Les magazines sont en réalité de même format. Ce sont deux numéros du même hebdomadaire. L'erreur sur la taille provient d'une erreur sur la distance. Qui croirait ce pygmée deux fois plus éloigné que le jalon A? En reculant le jalon de 70 en 70 cm, cherchons la position pour laquelle il est réellement sur le même plan que le personnage. Nous n'y sommes pas encore. Enfin, nous y voilà. La distance AE, de près de 3 mètres, mesure l'écart entre la distance apparente et la distance réelle du personnage, du moins quand l'illusion est complète. Le mouvement peut tantôt renforcer et tantôt atténuer l'illusion du rapprochement. Voyons d'abord les cas où il la renforce. Considérons la distance apparente du petit personnage. Tout le monde ne le voit pas tout à fait aussi proche que le grand. Suivons le mouvement du chapeau. Sa chute verticale confirme la proximité apparente du personnage qu'il coiffe. L'effet précédent peut présenter bien des variantes. Ce va-et-vient du ballon tire un trait d'union entre les deux partenaires et contribue même, si l'on supprime tout geste défigurant, à les situer face à face. L'effet résulte d'un artifice stroboscopique qui maintient constante la grandeur projective du ballon. Ici, le mouvement naturel du ballon, entraînant une variation de sa grandeur projective, creuse au contraire un intervalle en profondeur entre les joueurs, du moins tant qu'on suit ce mouvement des yeux. Considère-t-on la situation statique de chaque personnage par rapport aux chaises, l'illusion de rapprochement tend à reprendre le dessus. La permutation des joueurs ne change rien à ces divers effets. Pourquoi l'illusion de rapprochement est-elle ici très imparfaite? C'est sans doute que la jeune fille ne semble pas participer réellement au jeu. Même défaut pour le jeune homme placé dans les mêmes conditions. La synchronisation de l'action et de la réaction ramène maintenant le personnage central face à son partenaire, sur un même plan. Voyons de plus près cette chaise aux propriétés mystérieuses. Suivons bien ce que fait l'opérateur. Repérons la taille initiale de ce ballon par rapport au dossier de la chaise sur laquelle il est placé. Peu importe l'absurdité de l'opération, malgré une disproportion évidente entre les efforts du souffleur et le gonflement du ballon, 90% des observateurs non prévenus voient ici un ballon qui change de volume sur place. En l'absence du souffleur, le pourcentage des observateurs qui perçoivent une variation de grosseur sur place n'est plus que de 80%. Les 20% qui restent voient un mouvement en profondeur. L'impression varie d'ailleurs suivant qu'on fixe la base ou le sommet du ballon. Avec une vitesse plus rapide, la proportion de ceux qui perçoivent une variation de volume sur place se réduit à 70%. La perception d'un mouvement en profondeur gagne du terrain. Devant un ballon de ce genre, on admet plus difficilement l'hypothèse d'une variation de volume sur place, avec rotation autour d'un axe immobile. Aussi, la moitié environ des observateurs voit-il maintenant le ballon s'éloigner en roulant doucement vers le bas. L'autre moitié, cependant, persiste à le voir diminuer de volume en tournant sur lui-même. La proportion de ces diverses façons de voir est à peu près la même pour le mouvement inverse. Comme précédemment, l'impression peut changer suivant que l'on fixe la base du ballon ou son sommet. Voyons maintenant l'effet d'une vitesse plus rapide. Pour la majorité des sujets interrogés, le ballon dévale une pente en s'éloignant et la remonte en sens opposé. Beaucoup notent avec étonnement que, malgré ses allées et venues en profondeur, le ballon ne quitte jamais le centre de la chaise. On dirait qu'il bouge sur place. Observez bien la position initiale du ballon rouge. Il paraît à peu près sur le même plan que le ballon bleu. Maintenant, il vient. Il monte vers nous. Il s'arrête. Et il semble encore placé sur le même plan que le ballon bleu. Le phénomène est le même dans les deux sens. Tout se passe comme si la position du mobile, à chaque arrêt, était indépendante du mouvement qui précède. Il y a disjonction, dirait Bergson, entre le mouvement se faisant, qui se fait sentir en profondeur, et le déplacement effectué qui revient à zéro. D'après l'expérience commune, un bro, un pot quelconque, n'est pas un objet extensible. Si son image grandit, il faut supposer qu'il se rapproche. Mais ici, dans ce contexte, le mouvement en profondeur est-il vraiment perçu? Non pour certains qui voient le bro grandir sur place, oui pour d'autres qui le voient finalement suspendu en l'air, en avant de la chaise. D'autres, enfin, ont une impression mixte. Il leur semble que le bro se meut en profondeur et que, tout à la fois, il change de grandeur réelle. L'augmentation de vitesse accentue, semble-t-il, l'impression de va-et-vient en profondeur sans supprimer toujours celle d'une certaine élasticité de l'objet. La chaise, dont nous venons de constater les effets, se compose en réalité de deux parties distinctes et complémentaires. La partie A, surélevée par une estrade, est à l'échelle d'une chaise normale. La partie B, en contrebas, est à une échelle double. La partie B peut s'ajuster visuellement à la partie A pour un point de vue O situé à une distance OA égale à AB. L'œil ou la caméra située en haut reçoivent alors une image semblable à celle d'une chaise ordinaire. Mais la formation de cette image sur le film et sur la rétine n'explique pas tout, loin de là. Elle n'explique pas notamment pourquoi l'observateur perçoit une chaise de taille ordinaire en A. Et non pas, par exemple, une chaise de grandeur double en B. L'expérience acquise de la grandeur normale d'une chaise intervient ici pour éliminer l'hypothèse d'une chaise géante en B au profit de la perception d'une chaise de taille ordinaire en A. Des indices de distance relatifs au sol peuvent, éventuellement, concourir à cet effet. Que se passe-t-il dans ces conditions lorsqu'un objet de hauteur H est placé en B? Si sa grandeur est inconnue, il n'y a pas de difficulté à le voir en A, à mi-distance de B, avec une hauteur petit h réduite de moitié. Mais si l'objet est de grandeur connue, si c'est un homme par exemple, on pourra répugner à le voir aussi petit et conservant cependant toutes les proportions. C'est là en effet quelque chose qui échappe aux normes de notre expérience passée. On tendra donc, avec plus ou moins de succès, à le repousser vers B pour lui rendre sa stature. Il y aura conflit entre la tendance à reconstituer la chaise en A et la tendance à situer le personnage en B. Les deux parties de la chaise sont réunies maintenant par un rail, dont l'axe passe par le point de vue O. Tout objet se déplaçant sur ce rail projette sur la rétine de l'œil situé en O une image dont la base est fixe et la grandeur variable. Le problème psychologique était de savoir si un tel objet semblerait varier en grandeur ou en distance, ces deux hypothèses étant géométriquement équivalentes. Nous avons constaté que cela dépend en partie de la nature de l'objet perçu. suivant par exemple qu'il paraît susceptible ou non d'être gonflé. La forme du mouvement, roulement ou glissement, joue aussi un rôle, et de même sa vitesse. Après ce coup d'œil sur les dessous du trucage, le spectateur se demandera peut-être s'il serait désormais aussi sensible aux illusions qu'il a pu l'être précédemment. Beaucoup de personnes perçoivent plus facilement le mouvement en profondeur lorsque l'explication du montage leur a été donnée, ou que seulement l'idée d'un tel mouvement leur a été suggérée. Notons que cette suggestion a été faite ici par notre commentaire, avant même que le trucage ait été dévoilé. Dès l'avant-propos de ce film, le spectateur est conditionné. Même dans cette scène, particulièrement propice à l'effet de grossissement sur place, la simple idée d'un mouvement possible en profondeur peut aider à percevoir en fait ce mouvement. L'illusion de rapprochement et de rapetissement, sous sa forme statique, résiste davantage à la connaissance acquise du trucage. Est-ce possible ? Son petit frère transformé en poupée? Cette confrontation nous permet-elle de réaliser que le vis-à-vis de la poupée est en fait un garçon de 10 ans? Sa gesticulation sur place montre déjà qu'il est bien en chair et en os. Mais pour nous convaincre qu'il est un grand homme et nous rappeler que la chaise n'est qu'un truc, il fallait mettre les pieds dans le plat. Une autre façon de dissocier les deux parties de la chaise peut aboutir, selon les cas, à deux effets très différents. Ou bien la disparition des pieds de la chaise laisse celle-ci suspendue dans le vide au premier plan, ou bien le haut de la chaise, une fois privé de sa substructure, apparaît rejeté à l'arrière-plan conformément à l'explication précédente. La façon de percevoir dépend non seulement de l'information intérieure, mais de l'attitude de l'observateur. Pour terminer sur des cas où l'illusion résiste ordinairement à la connaissance du trucage, constatons, une fois de plus, l'effet de l'action synchronisée des partenaires. L'aspect familier d'un geste comme celui d'offrir du feu tend à renforcer la proximité apparente des deux amis, que sépare pourtant, nous le savons, une invisible distance.